Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission mensuelle Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs vont venir sonder l'intérieur et l'extérieur de vos vies en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. T'as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. En ouverture de cette émission, un dialogue entre deux personnes qui vont essayer de se comprendre en français et en anglais avec un invité spécial, Monsieur John Bello.
Pourquoi tu ne fais rien?
Parce que c'était belle journée.
Et alors?
Pourquoi la gâcher?
Mais tu pourrais faire quelque chose d'important.
C'est ce que je fais.
Ah bon? En faisant quoi?
J'écoute.
Tu écoutes quoi?
J'écoute les oiseaux là-bas.
Qu'est-ce qu'ils disent les oiseaux?
Que c'est une belle journée.
Mais tu le sais déjà.
Oui, ils sont d'accord avec moi.
Tu ferais mieux de passer ton temps à t'éduquer en écoutant la radio.
Ça t'est chaud?
Bah oui, cette chose. Autrement, comment sais-tu ce qui arrive dans le monde?
Je vais dehors.
Tu vas dehors? Eh ben moi, j'écoute la radio. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai appris que 3000 personnes ont été tuées dans un accident d'avion à Los Angeles.
Ça te dit quoi du monde, ça?
Ouais, t'as raison. Que disent les oiseaux maintenant?
Que c'est une belle journée.
Hey Pooh, why aren't you busy?
Because it's a nice day.
Yes, but...
Why asking me all this?
Because you could be doing something important.
I am.
Oh, doing what?
Listening.
Listening to what?
To the bear over there.
What are they saying?
That it's a nice day.
But you know that already.
Yeah, but it's always good to hear that the bear thinks so too.
Well... You could be spending your time getting educated by listening to the radio.
That thing?
Yes, that thing. How else do you know what's going on in the world?
By going outside.
Going outside, well. I listen to the radio. And for example, today I learned that 3,000 people were killed in a plane crash in Los Angeles.
What does that tell you about the world?
You're right. What are the birds saying now?
That it's a nice day and beautiful day.
Bon, ben, moi j'ai compris que c'était une belle journée.
Thank you. Le propriétaire de la ferme du manoir, M. Jones, avait poussé le verrou des poulaillers, mais il était bien trop saoul pour s'être rappelé de rabattre les trappes. S'éclairant de gauche et de droite avec sa lanterne, c'est en titubant qu'il traversa la cour. Il entreprit de se déchausser, donnant du pied contre la porte de la cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et se hissa dans le lit où était Mme Jones, déjà en train de ronfler. Dès que fut éteinte la lumière de la chambre, ce fut à travers les bâtiments de la ferme un bruissement d'ailes et bientôt tout un remue-ménage. Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité au cours de la nuit précédente par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres animaux. Sage l'Ancien était un cochon qui, en son jeune temps, avait été proclamé lauréat de sa catégorie. Il avait concouru sous le nom de Beauté de Willingdon. Mais pour tout le monde, il était Sage l'Ancien. Il avait été convenu que tous les animaux se retrouveraient dans la grange dès que M. Jones se serait éclipsé. Et Sage l'Ancien était si profondément vénéré que chacun était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire. Lui-même avait déjà pris place à l'une des extrémités de la grange sur une sorte d'estrade. Il avait 12 ans et avec l'âge avait pris de l'embonpoint. Mais il en imposait encore et on lui trouvait un air raisonnable, bienveillant même, malgré ses canines intactes. Bientôt, les autres animaux se présentèrent et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce furent d'abord le chien Filou et les deux chiennes, qui se nommaient Fleur et Constance, et ensuite les cochons, qui se vautrèrent sur la paille face à l'estrade. Les poules allèrent se percher sur des appuis de fenêtres et les pigeons sur les chevrons du toit. Vaches et moutons se placèrent derrière les cochons et là se prirent à ruminer. Puis, deux chevaux de trait, Malabar et Douce, firent leur entrée. Ils avancèrent à petits pas précautionneux, posant avec délicatesse leurs nobles sabots sur la paille, de peur qu'une petite bête ou l'autre s'y fût tapie. Douce était une superbe matrone entre deux âges qui, depuis la naissance de son quatrième poulain, n'avait plus retrouvé la silhouette de son jeune temps. Quant à Malabar, une énorme bête, forte comme n'importe quelle deux chevaux. Une longue raie blanche lui tombait jusqu'au naseau, ce qui lui donnait un air un peu bêta. Et de fait, Malabar n'était pas génial. Néanmoins, chacun le respectait parce qu'on pouvait compter sur lui et qu'il abattait une besogne fantastique. Vinrent encore Edmé, la chèvre blanche, et Benjamin l'âne. Benjamin était le plus vieil animal de la ferme et le plus acariâtre. Peu expansif, quand il s'exprimait, c'était en général par boutade cynique. Il déclarait par exemple que Dieu lui avait bien donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait beaucoup préféré n'avoir ni queue ni mouche. De tous les animaux de la ferme, il était le seul à ne jamais rire. Quand on lui demandait pourquoi, il disait qu'il n'y a pas de quoi rire. Pourtant, sans vouloir en convenir, il était l'ami dévoué de Malabar. Ces deux-là passaient d'habitude le dimanche ensemble, dans le petit enclos derrière le verger, et sans un mot, broutaient de compagnie. À peine les deux chevaux s'étaient-ils étendus sur la paille, qu'une couvée de canetons, ayant perdu leur mère, firent irruption dans la grange. Et tous ils piaillaient de leur petite voix et s'égaillaient, ça et là, en quête du bon endroit où personne ne leur marcherait dessus. Douce leur fit un rempart de sa grande jambe, ils s'y blottirent et s'endormirent bientôt. À la dernière minute, une autre jument, répondant au nom de Luby, la jolie follette blanche que M. Jones attelle à son cabriolet, se glissa à l'intérieur de la grange en mâchonnant un sucre. Elle se plaça sur le devant et fit des mines avec sa crinière blanche enrubannée de rouge. Enfin, ce fut la chatte. À sa façon habituelle, elle jeta sur l'assemblée un regard circulaire, guignant la bonne place chaude. Pour finir, elle se coula entre Douce et Malabar, sur quoi elle ronronna de contentement et du discours de Sage l'Ancien n'entendit pas un traître mot.
Monsieur, constituera demain les fondations du grand mouvement national.
Les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes malheurs et fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, des porcs sont pif, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, marqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Hiroshima et suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des bourreaux. Des sages conduits à la démence, méthode devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte à coups de schlag, de sang et d'onde.
Les animaux étaient maintenant au rendez-vous, sauf Moïse, un corbeau apprivoisé, qui sommeillait sur un perchoir près de la porte de derrière. Et les voyant à l'aise et bien attentifs, sage l'ancien se racla la gorge, puis commença en ces termes. « Camarades, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange qui m'est venu la nuit dernière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai d'abord quelque chose d'autre à vous dire. Je ne compte pas, camarades, passer encore de longs mois parmi vous. Mais avant de mourir, je voudrais m'acquitter d'un devoir, car je désire vous faire profiter de la sagesse qu'il m'a été donné d'acquérir. Au cours de ma longue existence, j'ai eu dans le calme de la porcherie tout loisir de méditer. Je crois être en mesure de l'affirmer, j'ai sur la nature de la vie en ce monde autant de lumière que tout autre animal. C'est de quoi je désire vous parler. Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre, et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voici qu'on nous égorge avec une cruauté inqualifiable. Passé notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoie ce que signifient les mots comme loisir ou bonheur. Et quand le malheur l'accable ou la servitude, pas un animal qui soit libre. Telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout uniment ainsi par un décret de la nature ? Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente ? Non, camarades, mille fois non. Fertile est le sol de l'Angleterre et propice son climat. Il est possible de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme à elle seule pourrait pourvoir aux besoins d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons, tous vivant dans l'aisance, une vie honorable. Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer une chose pareille. Mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable ? Parce que tout le produit de notre travail, ou presque, est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse à nos problèmes. tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul véritable ennemi. Qu'on le supprime, et voici extirper la racine du mal. Plus à trimer sans relâche, plus demeure la faim. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop débile pour pousser la charrue et bien trop lent pour attraper un lapin. Pourtant, le voici le suzerain de tous les animaux. Il distribue les tâches entre eux, mais ne leur donne en retour que la maigre pitance qui les maintient en vie. Puis, il garde pour lui le surplus. Qui laboure le sol ? Nous. Qui le féconde ? Notre fumier. Et pourtant, pas un parmi nous qui n'ait que sa peau pour tout bien. Vous les vaches, là devant moi, combien de centaines d'hectolitres de lait n'avez-vous pas produit l'année dernière ? Et qu'est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis d'élever vos petits, de leur donner force et vigueur ? De chaque goutte, l'ennemi s'est délecté et rassasié. Et vous les poules, combien d'œufs n'avez-vous pas pondu cette année-ci ? Et combien de ces œufs avez-vous couvé ? Tous les autres ont été vendus au marché pour enrichir Jones et ses gens. Et toi, douce, où sont les 4 poulains que tu as portés, qui auraient été la consolation de tes vieux jours ? Chacun d'eux fut vendu à l'âge d'un an, et plus jamais tu ne les reverras. En échange de tes 4 maternités et du travail au champ, que t'a-t-on donné ? De strictes rations de foin, plus un box dans l'étable. Et même nos vies misérables s'éteignent avant le terme. Quant à moi, je n'ai pas de hargne, étant de ceux qui ont eu de la chance. Me voici dans ma 13e année. J'ai eu plus de 400 enfants. Telle est la vie normale chez les cochons. Mais à la fin, aucun animal n'échappe au couteau infâme. Vous autres jeunes porcelets assis là et qui m'écoutez, dans les 12 mois, chacun de vous, sur le point d'être exécuté, hurlera d'atroces souffrances. Et à cette horreur et à cette fin, nous sommes tous astreints. Vaches et cochons, moutons et poules, et personne n'est exempté. Les chevaux eux-mêmes et les chiens n'ont pas un sort plus enviable. Toi, Malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra à l'écarisseur, et l'écarisseur te tranchera la gorge. Il fera bouillir tes restes à petit feu, et il en nourrira la meute de ses chiens. Quant aux chiens eux-mêmes, une fois édentés et hors d'âge, Jones leur passe une grosse pierre au cou et les noie dans les temps le plus proche. Camarades, est-ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche ? Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. Débarrassons-nous de l'homme et nôtre sera le produit de notre travail. C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. À cette fin, que faut-il ? Eh bien, travailler de jour et de nuit, corps et âme, à renverser la race des hommes. C'est là mon message, camarades. Soulevons-nous. Quand aura lieu le soulèvement, ça je l'ignore. Dans une semaine peut-être, ou dans un siècle. Mais aussi vrai que sous moi je sens de la paille, tôt ou tard justice sera faite. Ne perdez pas de vue l'objectif, camarades, dans le temps compté qui vous reste à vivre. Mais avant tout, faites part de mes convictions à ceux qui viendront après vous, afin que les générations à venir mènent la lutte jusqu'à la victoire finale. Et souvenez-vous-en, camarades, votre résolution ne doit jamais se relâcher. Nul argument ne vous fera prendre des vessies pour des lanternes. Ne prêtez pas l'oreille à ceux selon qui l'homme et les animaux ont des intérêts communs. Accrois vraiment que de la prospérité de l'un dépend celle des autres. Ce ne sont que des mensonges. L'homme ne connaît pas d'autres intérêts que les siens. Que donc prévalent entre les animaux au fil de la lutte, l'unité parfaite et la camaraderie sans faille. Tous les hommes sont des ennemis. Les animaux entre eux sont tous camarades.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une fidèle, une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on frappe. C'est elle qui se soulève, qui se presse, met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on frappe. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui vous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
À ce moment-là, ce fut un vacarme terrifiant. Alors que Sage l'Ancien terminait sa péroraison révolutionnaire, on vit quatre rats imposants, à l'improviste surgis de leur trou et se tenant assis à l'écoute. Les chiens les ayant aperçus, ces rats ne durent leur salut qu'à une prompte retraite vers leur tanière. Alors Sage l'Ancien leva une patte auguste pour réclamer le silence. « Camarades, dit-il, il y a une question à trancher. Devons-nous regarder les créatures sauvages telles que rats et lièvres comme des alliés ou comme des ennemis ? Je vous propose d'en décider. Que les présents se prononcent sur la motion suivante. Les rats sont-ils nos camarades ? Derechef en vota et à une écrasante majorité, il fut décidé que les rats seraient regardés en camarades. Quatre voix seulement furent d'un avis contraire. Les trois chiens et la chatte. On le découvrit plus tard, celle-ci avait voté pour et contre. Sage l'Ancien reprit. J'ai peu à ajouter. Je m'en tiendrai à redire que vous avez à montrer en toutes circonstances votre hostilité envers l'homme et ses façons de faire. L'ennemi est tous deux pattes, l'ami tous quatre pattes ou tout volatile. Ne perdez pas de vue non plus que la lutte elle-même ne doit pas nous changer à la ressemblance de l'ennemi. Même après l'avoir vaincu, gardons-nous de ces vices. Jamais animal n'habitera une maison, ne dormira dans un lit, ne portera de vêtements, ne touchera à l'alcool ou au tabac, ni à l'argent, ni ne fera négoce. Toutes les mœurs de l'homme sont de mauvaises mœurs, mais surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible, l'esprit profond ou simplet, nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux.
if you didn't care. What happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away through the boredom and pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing.
Trois nuits plus tard, Sage l'Ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début mars. Pendant les 3 mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand il aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant, mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échut bien normalement aux cochons, qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et entre les cochons les plus éminents étaient Boule de Neige et Napoléon, deux jeunes verrats que M. Jones élevait pour en tirer un bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. Avare de parole, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boule de Neige, plus vif, d'esprit plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Brille Babil, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. Brille Babil, enfin, était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussions. on s'accordait à dire que Brille-Babil pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de Sage l'Ancien, tous trois, Napoléon, Boule de Neige et Brille-Babil, avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits chaque semaine, une fois M. Jones endormi, il tenait des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres les principes de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie, à une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à Mr. Jones, qu'ils disaient être leur maître, ou bien ils faisaient des remarques simplistes, disant par exemple « C'est M. Jones qui nous nourrit, sans lui, nous dépéririons. » Ou bien « Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand nous n'y serons plus ?» Ou bien encore « Si le soulèvement doit se produire de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout pareil. » De sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer que ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides étaient encore celles de Luby, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige « Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ?»« Non, lui répondit Boule de Neige d'un ton sans réplique. Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est superflu. Tu auras tout le foin et toute l'avoine que tu voudras. » « Et est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ?»« Camarade, repartit Boule de Neige, ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ses colifichets ?» Luby acquiesça sans paraître bien convaincu. Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges colportés par Moïse, le corbeau apprivoisé, qui était le chouchou de M. Jones. Moïse, un rapporteur et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. À l'en croire, il existait un pays mystérieux, dit montagne de sucre candi, où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne de sucre candi se trouvait au ciel, un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche dans ce séjour. Le trèfle y poussait à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait au haut des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes et parce qu'il n'avait pas à trimer comme eux. Mais malgré tout, certains se prirent à croire à l'existence de cette montagne de sucre candi et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader.
they are on. Well, two of those seven seas, they fall to the ground.
Vint le mois de juin et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tombait un samedi, M. Jones se rendit à Willingdon. Là, il se saoula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de bonne heure, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, M. Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger et s'endormit, un hebdomadaire à sensation sur le visage. Et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre et bientôt, toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses quatre ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était plus que n'en pouvaient souffrir les affamés. D'un commun accord et sans s'être concertés, les meurt-la-faim se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici les cinq hommes, en butte aux ruades et coups de corne, changés en souffre-douleur. Une situation inextricable, car de leur vie, leur maître n'avait vu les animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, les animaux triomphants à leurs trousses. De la fenêtre de la chambre, Madame Jones, voyant ce qu'il en était, jeta précipitamment quelques affaires dans un sac et se faufila hors de la ferme, ni vu ni connu. Moïse bondit de son perchoir, battit des ailes, et la suivit en croassant à plein gosier. Entre-temps, toujours pourchassant les cinq hommes, et les voyant fuir sur la route, les animaux avaient claqué derrière eux la clôture aux cinq barreaux. Ainsi, et presque avant qu'ils ne s'en soient rendus compte, le soulèvement s'était accompli. Jones expulsé, la ferme du manoir était à eux. Quelques minutes durant, ils eurent peine à croire à leur bonne fortune. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haï. Les animaux enfoncèrent la porte de la sellerie, qui se trouvait à l'extrémité des écuries, puis précipitèrent dans le puits, morts, nasières et laisses, et ses couteaux meurtriers, dont Jones et ses acolytes s'étaient servis pour châtrer cochons et agnelets. Rennes, licous, œillères, muselières humiliantes furent jetées au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. Ainsi des fouets, et voyant les fouets flamber, les animaux joyeusement se prirent à gambader. Boule de Neige livra aussi aux flammes ces rubans dont on parle la crinière et la queue des chevaux les jours de marché. Les rubans, déclara-t-il, sont assimilés aux habits, et ceux-ci montrent la marque de l'homme. Tous les animaux doivent aller nus. Entendant ces paroles, Malabar s'en fut chercher le petit galurin de paille qu'il portait l'été pour se protéger des mouches et le flanqua au feu avec le reste. Bientôt, les animaux eurent détruit tout ce qui pouvait leur rappeler Monsieur Jones. Alors Napoléon les ramena à la resserre et il distribua à chacun double picotin de blé plus 2 biscuits par chien. Et ensuite, les animaux chantèrent. Après quoi, s'étant bien installés pour la nuit, ils dormirent comme jamais encore.
et tendant les mains hors du lit, Plume fut étonnée de ne pas rencontrer le mur. « Tiens, » pensa-t-il.
« Les fourmis l'auront mangé. »
Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés.
« Bah, les choses sont faites ainsi, » pensa-t-il.
Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure.
« De l'air pressé qu'il a, il arrivera sûrement avant nous, » pensa-t-il en se rendormant.
Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments.
Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais puisqu'il est déjà passé...
Et il se rendormit. « Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu. Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. »
« Sur ce chemin, monsieur le juge, « je ne peux pas vous aider. »
Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ?
« Excusez-moi, je n'ai pas suivi l'affaire. »
Et il se rendormit. Plume déjeunait au restaurant. Quand le maître d'hôtel s'approcha, il le regarda sévèrement et il lui dit d'une voix basse et mystérieuse « Ce que vous avez là dans votre assiette ne figure pas sur la carte. » Et Plume s'excusa. Monsieur Plume fait partie des gens qui s'excusent tout le temps. Alors, Plume... Voyage. Plume ne peut pas dire qu'on ait excessivement d'égards pour lui en voyage. Plus qu'ailleurs d'ailleurs. Les uns lui passent dessus sans crier gare. Les autres s'essuient tranquillement les mains à son veston. Il a fini par s'habituer. Il aime mieux voyager avec modestie. Tant que ce sera possible, il le fera. Il voyagera. Si on lui sert hargneux une racine dans son assiette, une grosse racine, allons, mangez. Qu'est-ce que vous attendez ? Oh bien, tout de suite, voilà. Il ne veut pas s'attirer des histoires inutilement. Et si, la nuit, on lui refuse un lit, quoi ? Vous n'êtes pas venu de si loin pour dormir, non ? « Allons, prenez votre mal et vos affaires, c'est le moment de la journée où l'on marche le plus facilement. »« Bien, bien, oui, certainement. C'était pour rire, naturellement. Oh oui, par plaisanterie. » Et il repart dans la nuit obscure. Et si on le jette hors du train ? Ah, alors vous pensez qu'on a chauffé depuis 3 heures cette locomotive et attelé 8 voitures pour transporter un jeune homme de votre âge en parfaite santé, qui peut parfaitement être utile ici, qui n'a nul besoin de s'en aller là-bas, et que c'est pour ça qu'on aurait creusé des tunnels, fait sauter des tonnes de rochers à la dynamite et posé des centaines de kilomètres de rails par tous les temps, sans compter qu'il faut encore surveiller la ligne continuellement par crainte des sabotages et tout cela pour... Bien, je comprends parfaitement, j'étais monté pour jeter un coup d'œil, quoi. Maintenant, c'est tout. Simple curiosité, n'est-ce pas ? Et merci mille fois. Et Plume s'en retourne. Sur les chemins avec ses bagages. Et si à Rome, il demande à voir le Colisée ? Ah non, écoutez, il est déjà assez mal rangé comme ça. Et puis, après, monsieur voudra le toucher, s'appuyer dessus, s'y asseoir. C'est comme ça qu'il ne reste que des ruines partout. Ce fut une leçon pour nous, une dure leçon. Mais à l'avenir, non, c'est fini, n'est-ce pas ? Bien, c'était... Je voulais seulement vous demander une carte postale, une photo, peut-être, si des fois... Et il quitte la ville sans avoir rien vu. Et si, sur le paquebot, tout à coup, le commissaire du bord le désigne du doigt et dit « Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là ? Allons, on manque bien de discipline, là. En bas, il me semble... On aille vite me le redescendre dans la soute. Le deuxième quart vient de sonner. Et il repart en sifflotant. Et M. Plume, lui, s'éreinte pendant toute la traversée. M. Plume, lui, il ne dit rien. Il ne se plaint pas, M. Plume. Il songe aux malheureux qui ne peuvent pas voyager du tout. Tandis que lui, il voyage. Il voyage. Continuellement.
Je suis plume et je voyage. Dans la nuit, je me suis uni à la nuit. À la nuit sans limite, à la nuit. Mienne, belle, mienne, nuit, nuit de naissance qui m'emplit de mon cri, de mes épis, toi qui m'envahis, qui fait houle, houle, qui fait houle tout autour, et fume, et fort dense, et mugit, et la nuit, nuit qui gît, nuit implacable, et sa fanfare, et sa plage en haut, sa plage partout, sa plage boit, son poids est roi, et tout ploie sous lui, sous plus ténu qu'un fil, sous la nuit, dans la nuit, dans la nuit, je me suis uni à la nuit, sans limite, à la nuit, mienne, belle, mienne, nuit, nuit de naissance qui m'emplit de mon cri, de mes épis, toi qui m'envahis, qui fait houle, houle, qui fait houle tout autour, et fume, et fort danse, et mugit, et la nuit, nuit qui gît, nuit implacable, et sa fanfare, et sa plage en haut, sa plage partout, sa plage boit, son poids est roi, et tout ploie, sous lui, sous plus ténu qu'un fil, sous la nuit, la nuit, la nuit, la nuit de Monsieur Plume.
It's a dirty, dirty crime, Sherry. I say it's a low-down dirty. It's a low-down, dirty crime, Sherry. You know I'm crazy about a married woman, but I'm afraid to call her name. Now she's a no good woman, and she don't mean no one man no good. No, she don't mean no one man no good. But I can't blame that woman. No, I'd be the same way if I could. That's all right, woman. You know,
That's all right, that's all right with you. Yeah, that's all right, woman. Yes, you know, that's all right with you. That's all right, little woman. You treat me most any kind of way you want to. Uh-huh. Look out.
L'espace a toussé sur moi, et voilà que je ne suis plus. Les cieux roulent des yeux qui ne disent rien et ne savent pas grand-chose. De mille écrasements écrasés, allongés à l'infini, témoins d'infini, infini tout de même, mis à l'infini. Patrie qui se propose, qui n'emploie pas mes deux mains, mais me broie mille mains. Que je reconnais et pourtant ne connaissais, qui m'embrasse et par brassage à moi me soustrait, m'ouvre et m'assimile. À l'essaim je retourne, des milliers d'ailes d'hirondelles tremblent sur ma vie. Dans le prisme je me pose, j'ai séjour tant de la solennité. Je reçois les ondes qui donnent indifférence, impure et précaire, la petite vie s'éloigne de la vie. Pousser des fantômes contre moi, sillons la forme fendue d'un être immense, m'accompagne et mes sœurs, j'écoute les milliers de feuilles. L'impression suraiguë du malaise de moi accompagne l'impression suraiguë de l'aise de moi, de l'aise vertigineuse, de l'aise à son extrême, un désir d'union, oh ce désir d'union, fluide, fertile, double du double, double de tout redoublement, pétale ouvert, pétale sans fin, parfumé du parfum de l'indicible, la fleur du perpétuel, fontaine, l'époux de la fenêtre s'éveille, le pouls lumineux au point du jour, éblouissant, éblouissant, je sais. L'espace et l'espace mien qui me démange continuellement bougeant et bouillonnant. Ocelles, infiniment d'ocelles qui pullulent, je me prête aux ocelles, aux intimes déchirures, aux volutes, je me plie aux mille plis qui me plient, me déplient, qui traîtreusement, vertigineusement m'effilochent, je laisse en frissonnant tirer les sonnettes sans fin. Qui sans cesse pour rien m'appelle infini, infini qui au corps me travaille et rit de mon fini, qui en frémissement éludant et par retrait fait poussière de mon fini, infini qui m'étend et sans effort, sans spectacle de méprise me dessaisit, blanche vermine de broderie trop fine, qui court partout et ne se rend nulle part, trop fine, qui m'étire de mine mes fils. Espace qui en dentelle éperdument m'horripile, me crible. Et l'esprit m'épile. Traversé de troupeaux, de paroxysmes, 20 000 cascades coulent en moi. L'enfer devient laine. Transport, une âme immense veut entrer dans mon âme. Des îles incessamment chavirent dans mon océan. Passage, passage à plis, passage pétillant, passage furieusement chiffonné. On me lape, j'agonise, j'aime, j'épouse ma mort. Je coule, on me laisse remourir encore. Je coule, sable du sablier de mon temps, précipitamment s'effondrant, précipitamment comme torrent de montagne. Il naît des commencements.
I went down a 10-pan alley just to see what was going on. You know things got too hot down there, and I didn't stay there too long. But I said, hey, 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 hey. You know the alley's got to be the roughest place I've ever been. Lord, and all the people down there living for the whiskey, wine, and gin. I heard a woman scream, and I peeped through the door.
Le nombre a l'unique et le nom est immolé au sans nom. Pureté m'enfante. J'ai passé la porte, je passe une nouvelle porte sans bouger. Je passe de nouvelles portes. J'ai laissé derrière moi le sot, le sûr, le compétiteur.
Je suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, mais qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Descendre l'humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est vous qui nous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais s'ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre
pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Vous êtes toujours sur www.fréquencemistral.com dans des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu ce soir les chants des oiseaux, le cheval hennissant et ses sabots galopants, les moutons bêlants, le grognement du cochon. Vous avez entendu des musiques de Bob Marley, Melvin Taylor, la rhapsodie hongroise, les Berruriers, la danse macabre de Camille Saint-Saëns, Georges Moustaki, Mussorgsky, Pink Floyd, Paul Dukas, The Stranglers, la Symphonie du Nouveau Monde, d'Anton Dvorak, Eric Satie, Ézéchiel, le discours du dictateur de Chaplin, interprété par Roger Carrel, et sur la musique de Monsieur Sakamoto, toujours à notre habitude. Nous avons aussi, n'oublions pas, entendu les commentaires hors antenne que nous vous avons fournis et qui font partie des aléas du direct. Monsieur Christophe Becro, qui me fait la technique merveilleusement, est plié de rire. Il est au bord du suicide. Il va peut-être sauter par la fenêtre. Nous avons lu des textes de George Orwell, lus par Nathalie Vautier. Les textes que j'ai interprétés sont d'Henri Michaud, un très grand poète qui est très proche du mouvement surréaliste. La prochaine émission, c'est le jeudi 24 novembre 2016, de 18h30 à 20h. Vous avez toujours le choix de laisser la porte ouverte ou les volets fermés. Nous vous remercions infiniment de votre accueil. Et merci de suivre l'émission. On voit que les podcasts sont très très écoutés. Nous en sommes ravis. À la technique, Monsieur Becro, et votre serviteur. À la prochaine.